Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez transformés par la puissance de la parole de Dieu.
Au nom de Jésus, amen. Bonsoir à tout le monde. Vous pouvez saluer les uns les autres. Alors notre thème, juste pour rappeler, c'est le ministère de Jésus, 2 points, 3 ans, 3 visages ou 3 faces, n'est-ce pas? Et ça, c'est la 3e séance. La séance introductive, nous avons essayé de placer les principes et puis nous avons déjà commencé à étudier la première année avec comme caractéristique la reconnaissance, la gloire. Et nous avons parlé de principes attachés à la gloire et comment il fallait gérer cette réalité. Aujourd'hui, nous allons voir la 2e année, année des contestations et d'opposition. Année des contestations et d'opposition. Je voudrais juste avec vous lire 2 passages qui symbolisent clairement cette réalité attachée à la contestation et à l'opposition. Lisons Jean chapitre 5, du verset 9 au verset 18. Et puis nous lirons aussi Jean chapitre 7, du premier verset au verset 9e. Alors je fais la première lecture, Jean chapitre 5, du verset 9 au verset 18. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean chapitre 7, du premier verset au verset 9e. Après cela, Jésus parcourait la Galilée et ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'en gît en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il a de la haine vis-à-vis de moi parce que j'ai rendu de lui les témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Amen. Alors nous allons voir cette 2e année, l'année de la contestation et de l'opposition. Nous allons voir cela en 3 sous-points. Les premiers sous-points, je parlerai de définition et principe sur l'opposition et la contestation. Définition et principe sur l'opposition et la contestation. Le 2e point, nous parlerons de Jésus et la gestion de ces 2 réalités. Jésus et la gestion de ces 2 réalités. Et puis enfin, si le temps nous le permet, nous terminerons avec une conclusion que j'ai intitulée 5 incontournables qui rendent capables de bien gérer la contestation et l'opposition. 5 incontournables qui rendent capables de bien gérer la contestation et l'opposition. Alors nous avons dit que cette 2e année, c'était l'année de l'opposition, contrairement à la 1ère année qui était une année de gloire. Jésus sort de l'ombre, les gens le découvrent. Chaque fois qu'il fait quelque chose, les gens s'étonnent. Mais qui est donc celui-ci? Il fait toutes choses à merveille. Il fait même voir les aveugles. C'était la saison de la découverte. C'était la saison du waouh. On les découvre. Et puis voilà, juste quelques temps après cette saison, fait place à une autre réalité. Alors, parler des contestations qui vient du verbe contester, cela cache 5 idées. Contestation qui vient du verbe contester cache 5 idées. La première idée, Contester, c'est l'action de ne pas accepter ou admettre quelque chose. Action de ne pas accepter ou admettre quelque chose. Et cette chose, ça peut être une idée, une opinion ou une pratique. Donc, je répète, action de ne pas accepter, ou de ne pas admettre quelque chose. Et cette chose, ça peut être une idée, une action, une opinion ou une pratique. Mais non seulement n'est pas action de ne pas accepter ou d'admettre quelque chose, mais aussi la remettre en cause. Et quand je dis la remettre en cause, l'idée qui est cachée là derrière, c'est publiquement. On la remet en cause, mais publiquement, c'est-à-dire on le fait savoir. Deuxième idée cachée derrière le thème contestation, c'est le fait de dire ouvertement le mal que l'on pense de quelqu'un ou de quelque chose. Le fait de dire ouvertement, en d'autres termes, publiquement, le mal que l'on pense de quelqu'un ou de quelque chose. Et la pensée aussi qui est cachée derrière, c'est qu'on ne le dit pas forcément pour exprimer ce que l'on a dans le cœur, on le dit parce qu'on veut amener l'adhésion des autres. Lorsqu'il y a contestation, j'ai dit du mal que je pense, mais l'idée c'est que plusieurs qui n'ont pas cette idée puissent la voir et aller dans la même direction que moi. Troisième idée qui est cachée derrière la réalité de la contestation, c'est action par laquelle on ouvre un procès contre quelqu'un. C'est-à-dire on décide ouvertement et sans retenue de dire du mal que l'on pense de quelqu'un ou de quelque chose. Action par laquelle on ouvre un procès contre quelqu'un. On décide ouvertement et sans retenue de dire du mal que l'on pense de quelqu'un ou de quelque chose. Quatrièmement, contester, c'est refus de reconnaître l'authenticité de quelque chose. Refus de reconnaître l'authenticité de quelque chose. C'est-à-dire refus aussi de lui accorder la valeur que la chose ou la personne elle-même s'accorde ou d'autres lui accordent. Et cinquième idée cachée derrière le mot contester, c'est le fait de discuter en contredisant publiquement. Le fait de discuter en contredisant publiquement. Alors le deuxième terme qui est attaché à cette deuxième année, c'est l'opposition. C'est-à-dire sa racine du verbe opposer. Et là aussi, il y a cinq significations qui sont cachées derrière ces mots opposition. Premièrement, opposition, c'est le fait de faire obstacle à quelqu'un ou à quelque chose. Faire obstacle à quelqu'un ou à quelque chose. Et l'idée qui est cachée, c'est on se tient, non pas derrière cette personne ou cette chose comme support, mais on se tient devant pour résister à son action. Deuxième signification de l'opposition, c'est affronter quelqu'un ouvertement en l'empêchant de faire quelque chose. Affronter quelqu'un ouvertement en l'empêchant de faire quelque chose. Troisièmement, opposition, c'est le fait de résister à quelqu'un ou à quelque chose en lui empêchant une action qu'on n'admet pas. Résister à quelqu'un ou à quelque chose en lui empêchant une action que l'on n'admet pas. Et quatrièmement, opposition, c'est le fait d'agir contre quelqu'un, et cela de deux manières, soit de manière ouverte, soit de manière cachée. Mais dans tout le cas, on nuit à ses intérêts. Agir contre quelqu'un de manière ouverte ou de manière cachée, mais dans tout le cas, on nuit ou on cherche à nuire à ses intérêts. Et puis enfin, cinquièmement, opposition ou s'opposer à quelqu'un, c'est montrer son hostilité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose ouvertement. Montrer son hostilité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose ouvertement. Et Jésus-Christ est passé de cette phase de gloire, de renommée, où il ne reçoit presque que de louanges, à une phase où subitement le tableau change. Et j'aimerais avec vous mentionner 13 principes attachés à la contestation ainsi qu'à l'opposition avant de toucher la manière dont Christ a géré cette réalité. 13 principes. Le tout premier principe, c'est que l'opposition ou la contestation peuvent avoir plusieurs visages. L'opposition ou la contestation peut avoir plusieurs visages. Et là, j'en mentionne deux. Elles peuvent être individuelles, c'est-à-dire une personne est à la base, tout comme elles peuvent être des réalités collectives. Quelqu'un peut vous contester individuellement, quelqu'un peut s'opposer à vous individuellement, mais il peut arriver aussi que les gens se mettent en groupe pour s'opposer ou pour vous contester. Deuxième principe, l'opposition ainsi que la contestation peut avoir des bases réelles, mais aussi des bases imaginaires. C'est-à-dire les gens peuvent vous contester pour des faits réels. Et même là, on peut dire entre guillemets, contestation et opposition peuvent être justifiées. Mais des fois, opposition et contestation peuvent n'avoir aucune base. Un des exemples que l'on peut voir, c'est dans 2 Samuel, chapitre 19, au verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation. Une autre version dit, s'opposer, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Il y a eu guerre entre l'armée de David et l'armée d'Absalom. David est revenu, mais le peuple a des ressentiments. Il aurait dû rester se battre. Pourquoi a-t-il fui? Il nous a laissé à la merci de ces gens. Et les gens commencent à contester son autorité. Ils contestent parce qu'ils disent, certes, il nous a délivrés de la main des Philistins, celui qui a stabilisé, mais pourquoi a-t-il fui? On peut dire entre guillemets, contestation, méritée, et qui est presque comme une moisson, que David est en train d'avoir vu les actions qu'il avait posées. Troisième principe, l'opposition ou la contestation peuvent avoir un meneur. Tout comme il peut y avoir absence des meneurs. L'opposition ainsi que la contestation peuvent avoir un meneur. Et là, l'idée que ça se fait en groupe. Tout comme ça ne peut ne pas avoir forcément un meneur. Quatrième principe, même s'il n'y a pas de meneur, il y a toujours un agent causal. C'est-à-dire quelqu'un qui enclenche les processus et amène les autres consciemment ou inconsciemment à adhérer. Il arrive des fois, il y a une action subitement qui commence. On ne sait pas dire qui est à la base, mais si on étudie bien un moment, il y a toujours quelqu'un qui peut-être a simplement dit, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec la manière. Lui l'a simplement exprimé, mais quelqu'un d'autre qui a une forte personnalité a agi. Donc, même lorsqu'il n'y a pas de meneur, il y a toujours un agent causal, c'est-à-dire quelqu'un qui enclenche les processus et amène les autres à l'adhésion consciemment ou inconsciemment. Cinquième principe, lorsqu'il y a opposition, il y a trois types. Lorsqu'il y a opposition en groupe, c'est-à-dire il y a un groupe de gens qui entrent en opposition, qui contestent, il y a toujours trois types de personnes en action. Lorsqu'il y a contestation ou opposition en groupe, il y a toujours trois types de personnes en action. Premièrement, celle qui adhère sans comprendre. Et la plupart des fois, ce sont des gens manipulés par celles qui comprennent. Celle qui adhère sans comprendre. Et comme je l'ai dit, la plupart des fois, manipulés par les autres qui comprennent et qui savent ce qui se passe réellement. Je voudrais qu'on lise 2 Samuel chapitre 15, verset 10, verset 11. Absalom envoie des espions dans toutes les tribus d'Israël pour leur dire, quand vous entendrez les sons de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Ils accompagnent Absalom, ils pensent simplement faire partie d'un cortège, mais ne savent pas qu'il y avait quelqu'un de si intelligent qui, derrière cet acte, cette foule, recherchait quelque chose. Donc celle qui adhère sans comprendre, manipulée par les autres. Deuxième type, c'est celle qui adhère avec compréhension. Il arrive dans une contestation, dans une opposition. Il y a aussi des gens qui adhèrent, qui se mettent à agir parce qu'ils ont souscrit à ces choses et se sont mis d'accord avec l'initiateur. Troisième type de personnes, lorsqu'il y a contestation ou opposition en groupe, sont des personnes qui, à part le fait de ne pas vous accepter, n'ont rien en commun. C'est-à-dire, vous retrouverez les gens en groupe qui, à part le fait de ne pas vous accepter, n'ont rien en commun. Les gens dont le seul point commun sera l'inimitié qu'ils ont contre vous. Et dès l'instant où ils atteignent ce but de vous détruire, leur groupe se meurt parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et ne soyez pas étonnés sur le chemin de la vie de retrouver des coalitions comme ça. Tu es en train d'être étonné. Celui-là et celui-là se mettent ensemble. La seule chose qui les unit, c'est ils ne t'aiment pas. Luc chapitre 23, verset 12, nous en parle avec étonnement. Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Jamais ils n'ont eu quelque chose en commun. Mais dès l'instant où leurs intérêts se sont retrouvés, éliminer Jésus, pour la première fois, ils se sont salués. Ils se sont mis ensemble. Sixième principe, en rapport avec la contestation ainsi que l'opposition. L'opposition et la contestation, comme une maladie, ont des phases, quatre phases. L'opposition ainsi que la contestation, comme une maladie, ont des phases, quatre phases. Première phase, c'est la phase du déclenchement. Un peu comme dans une maladie, les microbes rentrent. Deuxième phase, c'est celle qu'on appelle en médecine la phase d'incubation. La chose qui était rentrée, une seule chose, commence à se multiplier. La troisième phase, c'est l'apparition des premiers symptômes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et puis la quatrième phase, c'est le point culminant avec l'existence de la maladie. Et là, j'aimerais que tout leader puisse le savoir, une réalité importante. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien et n'entendez rien qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien et n'entendez rien qu'il n'y a rien. Vous êtes là, vous pensez que vous maîtrisez tout, mais des gens se réunissent quelque part sans vous. Des gens commencent à réfléchir sur certaines choses sans vous. La maladie qui rentre, l'incubation, les premiers symptômes qui apparaissent, et puis les points culminants. Et le plus bel exemple, pour un peu illustrer ça, ça a toujours été la contestation ainsi que l'opposition qui ont eu Absalom. Comme point de départ. Retournons dans 2 Samuel chapitre 15. Lisons d'abord du premier verset au verset 6e. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation, un procès, viendra à moi et je lui ferai justice. Et quand on s'approchait de lui pour le saluer, plutôt quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers les rois pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur de tous les gens d'Israël. Un travail de fourmi en train d'être fait. Quand il avait fini comme ça de saper l'autorité du roi devant les gens, il rentrait sûrement à la maison, il mangeait, il saluait: bonsoir papa, comment ça va, où tu étais? Non, je t'ai allé seulement faire un tour. Mais pourtant toute la journée n'était qu'en train de: n'allez pas là-bas, il n'y a rien. C'est devenu un grand pacha, mon arc, il n'y a plus rien. Et puis nous voyons la fourchette dans le verset 7 au verset 11. Au bout des 40 ans, quand on dit au bout des 40 ans, ce n'est pas que ça a duré 40 ans. Le contexte veut plutôt dire quand Absalom a eu 40 ans. Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir les vœux que je fais à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshu en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom s'éleva et partit pour Hébron. Et la suite, nous l'avons lu. Donc tout en allant là-bas, il avait déjà une idée. Ça allait être là, le point de départ de tout ce qui va suivre après. Et puis la fourchette du verset 12 au verset 13, ça c'est le point culminant. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel et Guionite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et les peuples étaient de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Verset 13, quelqu'un va informer David en lui disant, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. David n'a pas vu la chose arriver. Petit à petit, comme une maladie qui gagne du terrain, jusqu'à ce qu'il découvre que la maladie est déjà là. Septième principe, l'opposition ainsi que la contestation peuvent être les chefs des personnes qui sont éloignées de nous, tout comme ça peut être les chefs des personnes qui nous sont proches. Et chaque fois que ça vient de personnes lointaines, on a tendance à mieux accepter ça et puis à mieux supporter ça. Mais chaque fois que la contestation et l'opposition, surtout cachée, vient de personnes proches, ça fait très mal. Ça fait très mal, pourquoi? Parce qu'on se dit, ils ont des canaux pour me dire certaines choses. On se voit avec eux, on échange, on se retrouve dans des réunions, donc ils peuvent, dans ces cadres-là, m'exprimer leur opinion. Contraire, mais bon, on a des personnalités différentes. Il y a des gens devant vous, ils s'étaient, mais derrière vous, il est bavard avec B majuscule. Il dit tous les mal qu'ils pensent de vous. Mais quand vous êtes ensemble dans un cadre où vous avez la possibilité de vous dire des choses, les personnes ne les disent pas. Et comme je l'ai dit, la plupart des fois, quand on s'en vient des personnes proches qui avaient la possibilité de vous faire savoir ces choses, ça fait très très mal. Et nous avons lu dans Jean chapitre 7 l'exemple de Jésus-Christ. On voit ses frères qui l'obligent à aller à Jérusalem parce qu'ils estimaient que c'était le centre religieux pour qu'il aille se montrer. Jean chapitre 7, verset 3 jusqu'au verset 5. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres, les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et le verset 5 dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et pourtant, ils étaient à ses côtés. Mais c'est sûr, ils ne lui disaient pas en face. Et mon pasteur, un jour, enseignant sur le leadership, a parlé de cela en disant, la plupart des fois, lorsqu'il s'agit des proches, il y a toujours ces trois phases qui arrivent. La première phase, c'est la phase de l'hypocrisie. Phase de l'hypocrisie. On manque de courage. On parle, mais derrière le dos. La deuxième phase, il a appelé ça petite révélation. C'est-à-dire, on commence à montrer des indices, des désaccords. Petit à petit. Et si on est suffisamment expérimentons, on sait commencer à sentir que là, la loyauté n'est plus, là, l'attachement n'est plus. Et puis la troisième phase, c'est la phase de la révélation. Où la personne affiche publiquement son opposition vis-à-vis de nous. Huitième principe, contestation et opposition sont quelquefois, et j'insiste bien sur les quelquefois, contestation et opposition sont quelquefois des choses normales. Contestation et opposition sont quelquefois des choses normales, car elles peuvent avoir plusieurs raisons. J'en ai noté quatre. L'une des premières raisons, les gens peuvent s'opposer à nous ou nous contester à cause de l'absence des connaissances et des révélations. Et ça, ça a été les propres des pharisiens et de tous ces autres religieux, très scrupuleux sur les sabbats. Pourquoi ils guérissaient les jours du sabbat? Il manquait la révélation que le sabbat était fait pour l'homme et l'homme n'était pas fait pour le sabbat. Et ils étaient sincères dans leur contestation. Ils pensaient vraiment défendre une cause juste. Donc, des fois, les gens vont vous contester parce qu'ils ont une absence de connaissances et de révélations. Ils n'ont pas la même quantité et la même qualité de révélations. Un exemple aussi que j'aime beaucoup donner, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11. Versets 1 à 4. Les apôtres, les frères qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à les exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Ils étaient sincères. Comment un juif peut-il aller chez les gentils? Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que Pierre est allé chez Corneille. Il est rentré, il est resté. Et ils étaient sincères. Il les réprimait. Pourquoi? Il avait une révélation qu'eux n'ont pas eue. Il avait cette nappe qui descendait, tuait, mangeait, sa théologie était complètement révolutionnée. Il a atteint un certain degré qu'eux n'ont pas atteint. Alors, ils se mettent à les contester, à s'opposer à lui. Deuxième raison qui font que les gens puissent nous contester, s'opposer à nous, en pensant avoir raison, quand ils veulent protéger un idéal. Quand les gens veulent protéger un idéal qu'ils estiment être menacé. Quand les gens veulent protéger un idéal qu'ils estiment être menacé. Les pharisiens, les autres, ils contestaient Jésus parce qu'ils étaient défenseurs du judaïsme. Il faut qu'une seule personne meure pour que toute une nation puisse déprimer. Troisième raison, quand les gens veulent protéger des intérêts qu'ils estiment être mis en danger. Quand les gens veulent protéger des intérêts qu'ils estiment être mis en danger. Souvenez-vous des Actes 19, verset 25. On peut même commencer au verset 24. Quand la Bible parle de Démétrius, un nommé Démétrius, orfèvre, fabricant en argent des temples de Diane et qui procurait à ses ouvriers un gain considérable, il rassembla avec lui ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé de détourner une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas de Dieu. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à rien. Verset 28, ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens! Toute la ville fut dans la confusion, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens et compagnons de voyage de Paul. Protégés des intérêts. Quatrième raison qui peut faire que les gens s'opposent à vous et vous contestent, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes degrés de compréhension. Ils n'entrent pas dans certaines choses comme vous, ils n'ont pas la connaissance de ces choses comme vous. En général, plus les gens sont convaincus, plus ils s'opposent. Et plus ils contestent et sont prêts à tout. Prêts à tout. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Cet acte de contestation était basé simplement sur la conviction. Acte 9, versets 1 à 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem, convaincus que ce qu'il est en train de faire est vrai. Et à cause de la force de la conviction, il est en train d'agir de la sorte. Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 7 au verset 14. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent: nous avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, ils les saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. À cause de la force de la conviction, ils sont prêts à tout. Contient un principe maintenant que je vais mentionner. Neuvième, ok. Neuvième principe, la contestation ainsi que l'opposition, quand elle nous arrive, révèle notre vraie nature et notre vraie identité. C'est-à-dire quand nous expérimentons la contestation, quand nous expérimentons l'opposition, cela révèle notre vraie nature et cela révèle notre vraie identité. Je l'ai souvent dit ici, le feu pasteur Vernon avait toujours l'habitude de dire, Roland, quand viennent les épreuves, les temps difficiles, et les épreuves nous révèlent plusieurs choses. Les épreuves nous révèlent d'abord les autres que nous ne connaissions pas. Nous découvrons les côtés cachés, nous découvrons les côtés obscurs, nous découvrons ces personnes qui nous donnaient une certaine image qui ne l'était pas. Mais il disait aussi, et ça c'est important, l'épreuve nous révèle nous-mêmes, nous révèle nos forces que nous ignorons, nous révèle quelquefois nos faiblesses dont nous ne sommes pas toujours conscients. C'est en plein épreuve que David s'est arrêté et dit, quoique j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Mais il a aussi ajouté ça, j'aime beaucoup, l'épreuve nous révèle Dieu. Dans l'épreuve, nous découvrons Dieu comme jamais. Mais quand vient l'opposition, quand vient la contestation, nous-mêmes, nous avons la révélation de notre nature et notre identité. Tu penses toujours avoir le fruit de l'esprit. On aimerait vérifier jusqu'au jour où les gens vont te tenir tête. C'est juste là qu'on vérifierait est-ce que tu as le fruit de l'esprit ou pas. Non, lui, il est doux, il est calme. On vérifiera sa douceur le jour où quelqu'un va le critiquer en face. Douceur cosmétique, épidermique ou douceur réelle et présente. Donc je disais, quand la contestation et l'opposition viennent, Ça nous révèle notre vraie nature. Et dans cette vraie nature, il y a cinq choses qui sont révélées. Notre degré de maturité. Et par degré de maturité, j'aimerais entendre comment nous avons assimilé la parole de Dieu et nous sommes capables de l'appliquer quand les circonstances se présentent. Notre degré de maturité. Comme ce papa qu'on pensait être doux. Jusqu'à un jour, ça chauffe à l'église et nous le voyons tremblant de colère. Et Dieu a recouté le libre soir aux coups de tête. Pour le baraté, ceinture noire, troisième dan. Il commence à te rappeler des noms en chinois et en japonais, des prises de karaté, des judo. Deuxièmement, ça révèle notre degré de sagesse. Et troisièmement, ça révèle notre émotivité et notre tempérament. Il y a des gens que nous pensons être doux jusqu'au jour où ça barde. On sait voir de quel tempérament est-il réellement. Quatrièmement, ça révèle notre leadership. Et quand je parle de notre leadership, je parle de notre leadership d'abord par rapport à nous-mêmes et puis par rapport à l'extérieur aussi. Et puis enfin, ça révèle notre cœur, ce que nous sommes réellement. J'aime beaucoup cette portion d'écriture dans 1 Samuel chapitre 24, du 11e verset au 14e. David a réagi d'une manière fantastique. Saül était à sa portée. Il pouvait bien, 1 Samuel chapitre 24, verset 11 au verset 14, il pouvait d'un seul coup tuer cet homme qui lui menait la vie très difficile. Et David ne pose pas cet acte, mais écoutez comment il réagit. Il parle à Saül en disant, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Et j'aime ce qu'il dit, on m'excitait à te tuer. C'est-à-dire, si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas par absence des gens qui m'ont poussé, on m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Verset 12, « Vois mon Père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, et j'aime cela. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. » C'est ma nature, c'est ce que je suis. Et je n'ai point péché contre toi, et toi, tu cherches à m'ôter la vie. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Ce que tu es, ce que nous sommes réellement, se montrera quand nous sommes devant la contestation. Quelqu'un commence à dire derrière, pasteur Ken, on a terre, on est bien, t'es faux moutille. Pasteur Roland Daloana, et tu es au courant. Et tu le vois aussi. Et quand il te voit, il te sourit. Il a dit derrière, faux moutille, mais il vient te voir, oh, pasteur Mater, le Zaki m'a cassé. Et tu sais, comme les Kinois disent, Gazo Parolayo, de Poso Ibsen, Bambam Badayo. Et c'est de la sagesse que de savoir et de rester normal. Puis, écoute, frère, que Dieu te bénisse. Merci pour les compliments. Yo m'aurais dit qu'on a complimenté. La vraie nature se fait voir. Mon sosie, pasteur Mathieu le Zakis, tu as battu à travers. Tu as. Yo, c'est ma boule au barnaï bien rodé. Dixième principe. Certains gèrent bien la contestation ainsi que l'opposition et d'autres ne les gèrent pas bien. Certains gèrent bien la contestation ainsi que l'opposition, c'est-à-dire savent faire avec. D'autres n'arrivent pas à les gérer. Souvenez-vous de ce que j'avais dit dès le premier jour. L'une des choses qui nous rend beaucoup capables de gérer ces choses, surtout en termes de leadership, c'est premièrement la préparation. Mais deuxièmement, d'avoir été exposé à quelqu'un qui a géré ces choses. La plupart des fois, nous n'arrivons pas à bien agir devant certaines situations parce que nous avons manqué de modèles de voir quelqu'un. Souvenez-vous, le premier jour, j'avais dit, Jésus-Christ avait dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Je l'ai vu faire telle chose. Souvenez-vous aussi, nous avons mentionné, quand l'apôtre Paul parlant à Timothée, il dit, tu as suivi de près mes résolutions, ma constance. C'est-à-dire, tu m'as vu dans certaines situations agir ou réagir. Et tu sais copier. Ma prière est que dans la position de leadership que nous occupons, que Dieu nous aide à être des modèles que d'autres demain ou après-demain, à quelques niveaux, pourront utiliser. J'aimerais que vous puissiez noter ces cinq remarques importantes qui font partie toujours du dixième principe. Et c'est toujours, je parle toujours de la manière de bien gérer ou de ne pas bien gérer la contestation. Mais il y a cinq remarques importantes. La première, il faut savoir distinguer la contestation du contestateur. Savoir distinguer la contestation du contestateur. C'est-à-dire, on peut ne pas aimer la contestation, mais continuer à aimer les contestateurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un me conteste qu'un leader, un homme de Dieu ne va pas avoir un carnet noir. Il y a un carnet noir. On a été blessé, dérangé par toutes les choses. On peut distinguer la contestation du contestateur. Je peux ne pas aimer la contestation, mais je continue à aimer les contestateurs. Je continue à prier pour sa conversion. Je continue à prier pour son changement. Ne pas toujours être la défensive parce que tu as appris que cette personne a dit du mal de toi. Dès qu'elle vient, même si tu ris, Nine. Déjà aux aguets. Deuxième remarque. Il faut savoir que les gens ont le droit d'avoir une opinion sur nous, même en se trompant. Il faut savoir que les gens ont le droit d'avoir une opinion sur nous. Même en se trompant. combien c'est difficile d'être autre chose et les gens vous collent autre chose comme étiquette. Combien c'est difficile de ne pas être celui et celle que les autres ont tiré des conclusions. Il est ça. Et ça, c'est les Quinois qui sont forts. Acte 9, verset 26. Lorsque Saul se rendit à Jérusalem, il tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et ceux qui ont peur comme ça sont des hommes baptisés du Saint-Esprit, qui venaient de parler langue. Mais ils ont une opinion négative. Et bizarre, ils se trompent complètement les concernant. Il faut savoir que les gens ont le droit d'avoir une opinion sur nous et même de se tromper. Plus je me faisais monter en responsabilité, le pasteur Vernon me disait, Roland, tu ne seras pas toujours le pasteur de ceux qui t'aiment. Tu seras aussi le pasteur de ceux qui ne t'aiment pas. Je n'ai jamais oublié une phrase qu'il m'a dit très jeune quand il commençait à me donner des responsabilités. Mais il dit, sache que ton travail va t'imposer. Ferme la bouche, travaille. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils verront les résultats. Finalement, ils finiront par t'accepter parce que ton travail va t'imposer. Mais sache que les gens ont le droit d'avoir une opinion. J'aime beaucoup Papa Kelani. Papa Kelani, un jour, il apprend. Papa Kelani, le bateau, c'est que certains, dans leur contestation et dans leur opposition, peuvent déborder. C'est-à-dire aller au-delà. Mais sachez que c'est leur responsabilité devant Dieu. Certains, dans leur opposition, déborderont. Ils iront au-delà. Mais c'est leur responsabilité. Acte 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et la Bible dit, ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant. Et la Bible dit même en l'injuriant. Non seulement ils contredisent, mais ils injurient. Ils s'opposent à ce que disait Paul. Et la Bible dit, à part la seule contradiction, ils ajoutent les injures. Ils touchent non seulement ce que la personne fait, mais ils touchent la personne elle-même. Quatrième remarque. La recherche de l'unanimité est toujours un signe d'immaturité. La recherche de l'unanimité est toujours un signe d'immaturité. C'est lui qui veut que tout le monde soit d'accord avec lui sur tout ce qu'il fait. C'est un pauvre type. Sache que pour la même chose que tu fais, certains vont te louer, d'autres seront indifférents, d'autres diront, quand il fait des spéciales. Et si ta recherche est toujours l'unanimité, tu n'iras jamais là. Que des gens qui souffrent parce que sur 10 personnes qui ont écouté, 8 ont dit, waouh, c'était fantastique, 2 ont boudé, et à cause de 2, tu veux mourir. Et les 8 autres. La recherche de l'unanimité, c'est un signe d'immaturité. Là, tu veux même m'amener, ma maman, ma dimanche. Mais tu as l'air dans un miroir bien. Tu as ma coach qui est en église, mon ingane, mon ma copine. Mais le bon, il saute. Rouge, on est bon que si. Pour ça, il y a un culte, et si il y a mon maman, il y a un peu hésité. Rouge, mais si marais au terre. Tu as bien fait ton chignon avec une E. Maman, elle a le gars sous le temps. Bon, c'est un bimi. Mon soeur, à Bible, on a prié. Ma soeur, est-ce qu'on peut prier? Seigneur, bénis cet entretien. Tu vois combien j'ai hésité, mais c'est ton esprit qui m'a poussé à parler. Maman, bendaka metika nzela no ko chaka susute. Mon limo m'te tindinga.